On y va avec vous, Serge, l'histoire de la conscription au Canada.
Oui, c'est l'idée m'est venue, c'est que dimanche, dans la Presse Plus, il y avait un article de Marc Tison sur la conscription, la crise de 1917.
Oui, un article intitulé 1917-1918, l'explosion de colère contre la conscription.
Oui. Alors, ça m'a donné l'idée de fouiller un peu. Alors, je suis allé voir dans l'Encyclopédie canadienne pour voir l'histoire de la conscription au Canada. Alors, c'est un article de J.I. Granachstein et Richard Jones, et ça a été mis à jour en 2022. Alors, c'est assez quand même...
Relativement récent. Ouais. Quand on parle d'histoire...
Oui, bien c'est ça, oui. Alors, la conscription, parfois nommée « appel sous les drapeaux », est l'enrôlement obligatoire ou l'appel des citoyens pour le service militaire. Le gouvernement fédéral a adopté la conscription lors de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale. Et les deux cas ont créé de nettes divisions entre les Canadiens anglais, qui tendaient à soutenir la pratique, et les Canadiens français qui, de manière générale, ne la soutenaient pas. Et actuellement, le Canada n'a pas de service militaire obligatoire. Les Forces armées canadiennes sont un service volontaire. Petite note personnelle, je sors un peu du texte, mais les deux crises de la conscription, ça a été vraiment, avec la crise de Louis Riel à la fin du 19e siècle, ça a vraiment fractionné la société. Et c'était des crises politiques là, très, très profondes. Alors, ça a marqué d'ailleurs après les libéraux ont été plus souvent élus que les conservateurs parce que les conservateurs ont appliqué la loi, durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est les libéraux qui étaient au pouvoir, mais ils ont fait un référendum, je vais en parler tout à l'heure, là. Mais il y a toujours eu une dent contre les conservateurs au Québec.
Mais ils ont été élus, vous avez dit?
Ils ont été élus avec Diefenbaker en 1957-58, puis avec Mulroney. Mais la plupart du temps, c'est les libéraux qui rentraient. Mm-hmm. Assez souvent. Alors, sous la conscription, tous les hommes d'un certain âge doivent s'inscrire auprès du gouvernement pour le service militaire. Dans certains pays, les femmes sont également conscrites. Une fois inscrites, ces personnes peuvent être appelées au service militaire et certaines personnes peuvent être excusées du service militaire obligatoire. Ceci peut inclure des personnes exerçant certaines professions ou des personnes qui souffrent d'une maladie ou d'un handicap physique ou mental.
Alors, on va poursuivre avec vous, Serge, au retour de la pause à compter de 10 heures. Serge qui nous parle de l'histoire de la conscription au Canada, en fait, des conscriptions au Canada, puisqu'il en a eu deux. Merci.
T'es au quotidien avec Hélène Denis.
Oui, il y a Isabelle Falardeau qui est là. Et puis, Serge, vous poursuivez avec la conscription au Canada lors de la Première Guerre mondiale.
Exactement, oui. Alors, faut dire, actuellement, il n'y a pas de conscription au Canada, puis en Europe, probablement pas, là, c'est pas un sujet d'actualité. Les pays qui ont la conscription, ben, quelques-uns, Autriche, Danemark, Finlande, Grèce, Suède, Israël. Alors, durant la guerre des Boers de 1899 à 1902, plusieurs milliers de Canadiens se portent volontaires pour combattre l'Empire britannique outre-mer. C'est une guerre qui a lieu en Afrique du Sud entre les colons Boers et l'Empire britannique. La conscription pour l'effort de guerre limité du Canada en Afrique du Sud n'est donc pas nécessaire. Il est également de même pendant les premières années de la Première Guerre mondiale. De 1914 à 1915, environ 330 000 Canadiens s'enrôlent volontairement pour combattre les Allemands en France et en Belgique. Quand même un nombre assez important. Cependant, à la fin de 1916, les lourdes pertes implacables en vie humaine de la guerre et le nombre horrifiant de victimes commencent à causer des problèmes de renfort pour les commandants canadiens qui sont postés outre-mer. Le recrutement au pays ralentit et les systèmes d'enrôlement et de main-d'œuvre sont désorganisés. Pour le premier ministre Sir Robert Borden, conservateur, la première nécessité de porter assistance aux hommes dans les tranchées. En mai 1917, il revient de la conférence impériale de guerre à Londres et de visite dans les tranchées. Il décide que le service militaire obligatoire est nécessaire et il annonce sa décision au Parlement le 18 mai. Cependant, Sir Robert Borden craint que les opposants à la conscription, incluant le Parti libéral de Sir Wilfrid Laurier, unissent leurs forces pour vaincre le gouvernement conservateur aux élections générales prévues en décembre de cette année-là. Il décide que la meilleure façon d'induire la conscription, tout en rassurant le Québec, où le soutien pour la conscription est faible, est de guider son adversaire francophone vers une coalition de guerre, un gouvernement de coalition. Le 25 mai, il offre au chef du Parti libéral, Wilfrid Laurier, de former un gouvernement de coalition et Borden promet aux libéraux un nombre égal de sièges au cabinet en échange de leur soutien à la conscription. Cependant, après avoir consulté ses partisans, Wilfrid Laurier rejette l'offre le 6 juin. Il croit que le Québec n'accepterait jamais la conscription. Et il craint qu'il s'il se joint à la coalition, le Canada français sera livré aux mains des nationalistes québécois comme Henri Bourassa. Après d'énormes difficultés, la loi du service militaire est adoptée le 29 août 1917 et elle soumet tous les citoyens masculins âgés de 20 à 45 ans au service militaire jusqu'à la fin de la guerre. Presque tous les députés francophones s'opposent à la conscription, presque tous les députés anglophones la soutiennent. Les 8 provinces anglophones endossent également la décision de Robert Borden, tandis que la province de Québec s'y oppose. En octobre, après des mois de manœuvres politiques, Robert Borden annonce la création d'un gouvernement d'union, une coalition de conservateurs loyaux et une poignée de libéraux et de députés indépendants pro-conscription. Cependant, certains dirigeants des Premières Nations ont contesté la conscription sous prétexte qu'elle violait les traités entre la Couronne et les peuples autochtones. En conséquence, les peuples autochtones, soumis ou non à un traité, ont été exemptés de la conscription en janvier 1918. En revanche, et ça c'est un peu...
C'est triste.
Les Canadiens noirs sont soumis à la conscription. Malgré l'opposition à laquelle de nombreux volontaires noirs ont fait face lorsqu'ils ont tenté de s'enrôler plus tôt volontairement. Alors, tu veux t'enrôler volontairement, ben non, t'es noir, non.
Discrimination.
Mais là, la conscription, là, on rentre dans les rangs. Ouais. La controversée loi des élections en temps de guerre est adoptée le 20 septembre 1917 et elle élargit le droit de vote aux élections fédérales aux infirmières militaires travaillant pour le service de la santé de l'armée canadienne. Cependant, la loi des élections en temps de guerre retire également le droit de vote à des milliers de citoyens susceptibles de voter contre la conscription. Ceci comprend les immigrants venant de pays ennemis qui sont devenus citoyens après 1902, mais les citoyens qui ont un fils, un petit-fils ou un frère en service actif dans les Forces armées canadiennes sont exemptés. Les élections fédérales de 1917 sont divisées. Ni les Canadiens anglais ni les Canadiens français ne sont unanimes dans leurs opinions sur le sujet. Mais le Canada anglais, de façon générale, donne à Robert Borden le mandat de mettre la conscription en vigueur. Et le gouvernement d'Union remporte une majorité de 153 sièges contre 82 pour l'opposition. En tant que mesure politique, la conscription est largement responsable de la réélection du gouvernement de Borden. Toutefois, elle laisse le Parti conservateur aux prises avec une lourde responsabilité et de forts sentiments de trahison au Québec. C'est ça que je vous disais qui a perduré là, dans les années. Et dans les régions rurales de l'Ouest, où la conscription a dérobé des gens des fermes familiales. Toutes ces grandes fermes de l'Ouest, tout ça avait besoin de main-d'œuvre et ben, malheureusement, les gens n'étaient pas là. Des émeutes contre la conscription éclatent au Québec. En 1918, afin de réprimer les émeutes anticonscription de Pâques qui ont lieu à Québec entre le 28 mars et le 1er avril 1918, le gouvernement recourt à la loi sur les mesures de guerre, thème qu'on a utilisé après ça dans les années 70. Mm-hmm. La loi martiale est déclarée et plus de 6000 soldats sont déployés. Les émeutiers attaquent les troupes avec des coups de feu et des missiles improvisés, incluant de la glace et des briques. On est encore vers la fin de l'hiver. Les émeutes de Pâques deviennent de plus en plus violentes et font jusqu'à 150 victimes. 4 civils sont tués lorsque les soldats ripostent aux émeutiers armés qui retournent le tir sur eux. Le processus de convocation débute en janvier 1918 et certaines exemptions de convocation sont également levées au printemps 1918. Des 401 882 hommes qui s'inscrivent au service militaire, 124 588 hommes sont enrôlés dans le corps expéditionnaire canadien et parmi ceux-ci, 99 651 hommes sont portés à l'effectif alors que les autres sont jugés inaptes au service libéré. À la Deuxième Guerre mondiale, deux décennies plus tard, alors que la menace d'une nouvelle guerre en Europe devient sérieuse, la question de la conscription militaire devient à nouveau l'objet de débats politiques animés. Cependant, en mars 1939, le Parti libéral et le Parti conservateur acceptent tous deux un programme qui rejette la conscription pour un éventuel service outre-mer. Alors, on pensait comme ça acheter la paix. Hein. Lorsque le Canada déclare la guerre en septembre 1939, le gouvernement renouvelle sa promesse de ne pas conscrire les soldats pour le service outre-mer. En juin 40, alors que la Belgique et la France tombent aux mains de l'Allemagne nazie, le public commence à réclamer du Canada un effort de guerre plus concerté. Le gouvernement répond à ces demandes en adoptant la loi sur la mobilisation des ressources nationales le 21 juin. Cette loi ne prévoit l'enrôlement que pour la défense intérieure. On ne parle pas d'envoyer les soldats à l'étranger. L'inscription se déroule presque sans incident. Une exception notable est l'opposition publique du maire de Montréal, Camillien Houde, qui est interné d'ailleurs, Camillien Houde, durant 4 ans.
Hein?
Oui, pour avoir exhorté les électeurs à ignorer les lettres d'appel militaire.
Interné?
Oui,
oui. Il a fait
oui,
de la prison?
Oui, interné dans un camp militaire. Oui.
Ah bon?
Et ça a été après la guerre, quand ça a été levé, là, qu'il a trouvé sa liberté, c'était un héros, il était acclamé par les Montréalais. Là. En 1941, alors que le recrutement progresse lentement, de plus en plus de personnes se prononcent en faveur de la conscription, d'abord au sein du Parti conservateur et plus tard parmi les Canadiens anglais en général. Et afin d'apaiser les partisans de la conscription, le premier ministre Mackenzie King, libéral, décide de tenir un référendum non exécutoire qui demande aux Canadiens de libérer le gouvernement de ses promesses anti-conscription. Au Québec, la Ligue pour la défense du Canada est créée afin de faire campagne pour le camp du non. Et le 27 avril 1942, 72,9% des résidents du Québec votent non. Dans toutes les autres provinces, le oui triomphe à environ 80%. C'est vraiment deux blocs, hein? Complètement. Le gouvernement adopte alors le projet de loi 80 et ce projet de loi autorise la conscription pour le service outre-mer si cela est jugé nécessaire. Ah. Le Bloc populaire du Québec est formé en réponse à cette loi et le parti continue de lutter contre la conscription en présentant des candidats aux élections provinciales d'août 1944 et aux élections fédérales de juin 1945. Et après les opérations du jour J et la bataille de Normandie en 1944, le Grand Débarquement, J.L. Ralston, ministre de la Défense nationale, est convaincu de la nécessité de la conscription outre-mer et des pertes étonnamment élevées au front combinées à un engagement important de main-d'œuvre dans l'aviation royale canadienne et dans la marine royale canadienne, laisse l'armée canadienne à court de recrues. Alors, puis Mackenzie King a pensé, en remplaçant Ralston par quelqu'un d'autre, se débarrasser de la conscription, mais malheureusement, son cabinet anglophone, les partis anglophones ont dit non, il faut avoir la conscription. Alors, mais ça crée moins de dommages, celle-là, cette conscription-là.
Ouais. Ben merci d'avoir choisi ce sujet. Moi, je connaissais pas grand-chose.
Non.
Je suis plus ferrée en patates qu'en conscription. Mais ils ont dû en manger des patates aussi, hein? Un aliment complet qui fait en sorte que... Mm-hmm. Puis en plus, c'est pas trop cher. Mm-hmm. Merci Serge, merci Isabelle.
Merci, bonne semaine.
Bye.